Boeing. On va parler, en fait, qui s'est passé. Il y a eu deux crashs d'un même modèle d'appareil, qui est le Boeing 737 Max, qui a fait au total, sur deux crashs, 356 morts sur un an. Il y a eu un crash en octobre et l'autre, c'était au mois de mars. J'ai dit peut-être des conneries, mais enfin, bref, depuis fin octobre jusqu'ici, il y a eu deux crashs. Il aurait pu en avoir un troisième. C'est sûr et certain qu'en fait, il y a dans un avion qui aurait pu un 737 de je ne sais plus quelle compagnie, il y a un des passagers qui en fait est un pilote, et donc quand les deux, le pilote et le copilote ont eu des problèmes, c'est-à-dire qu'en fait, je l'expliquerai, mais l'avion commençait à piquer du nez, fallait le remonter, piquer du nez, fallait de nouveau le remonter. Il est entré dans la cabine de pilotage, évidemment, elle a demandé tout ça. Et en fait, il s'est rendu compte d'où était le système et il a pu faire en sorte que les pilotes, le pilote et le copilote puissent stabiliser l'appareil, sinon il était bon pour le crash. Donc voilà, il y a Boeing qui, à cause de cet appareil, à cause d'un défaut de fabrication, est responsable de la mort de près de 350 personnes. Alors Boeing, pour faire un petit résumé, on va un petit peu exposer le poids de la compagnie, même si tout le monde connaît le nom Boeing, c'est une des entreprises les plus renommées au monde. Alors, pas en bien, pas en mal, mais si vous dites Boeing, les gens savent grosso modo que c'est des avions. Pas que, mais grosso modo, c'est vrai que c'est des avions. C'est une compagnie née à Seattle, donc côte ouest, tout au nord-ouest des États-Unis, à la frontière du Canada et donc près de la ville de Vancouver. C'est une compagnie née à Seattle en 1916 et qui aujourd'hui a tout déménagé et est à Chicago. Les principaux actionnaires, comme dans de plus en plus de grosses firmes américaines, et ça sera peut-être un des éléments pesants pour la suite de mon explication, ce sont des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, c'est juste des gens qui ont de l'argent, qui regardent quelles sont les entreprises susceptibles de faire de gros pourcentages de bénéfices avec des grosses marges et qui investissent, qui achètent des actions sur un marché et qui se placent au fur et à mesure comme actionnaires. C'est pas des gens qui nécessairement, quoique ça arrive souvent, font raquer l'entreprise et la foutent en faillite volontairement, pas avec des grosses boîtes comme Boeing. Mais c'est l'hypothèse de certains, moi je ne pense pas, même si ça peut jouer dans les stratégies d'entreprise. Le chiffre d'affaires de Boeing, c'est 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, je ne sais pas ce que je pourrais donner comme somme. 100 milliards de dollars, c'est quoi? C'est un cinquième du produit national brut de la Belgique. C'est un peu moins de deux fois et demi le budget de l'État belge avec les communes, les provinces, les régions et l'État fédéral. Et faut savoir que sur ce chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires, je le rappelle, c'est ce qu'engrange en brut une entreprise sur un année en vendant ses produits. Donc c'est pas le bénéfice, c'est donc ou le profit, c'est le chiffre d'affaires, c'est combien rentre dans les caisses et après faut payer tout le monde. Ça c'est 100 milliards de dollars et 20% c'est dans le militaire et 80% c'est dans le civil et c'est essentiellement des avions. Des gros avions gros porteurs ou alors des avions militaires effectivement à hauteur de 20%, ça fait quand même 20 milliards, c'est le deuxième fournisseur d'armement au monde, hein, Boeing, c'est quand même pas rien. Le premier étant Lockheed Martin et je l'évoquerai peut-être après, mais même sûrement. Alors, il y a quelque chose d'intéressant sur Boeing, c'est que il y a 150 000 travailleurs et alors c'est une chose assez rare pour, c'est pas une multinationale au sens où il y a plein de filiales partout. Ben non, parce que c'est délicat. C'est de l'aéronautique, c'est un secteur de pointe, il y a plein de secrets. Ils sont en compétition avec Airbus, qui est les deux gros fabricants d'avions pour l'instant. Les Chinois vont bientôt arriver et les Russes aussi. C'est Boeing, les Américains et Airbus de l'autre. Donc il y a 150 000 travailleurs chez Boeing. Il y en a 137 000, c'est 90% qui sont aux États-Unis. C'est très rare. Ça peut expliquer, je fais une petite parenthèse, pourquoi en fait Trump et le gouvernement américain ont dopé le budget de l'armement. C'est parce que si vous passez des commandes aux industries d'armement, en sachant que c'est le cas de Boeing et de toutes les entreprises d'armement ou d'avions civils, militaires, etc., c'est que les entreprises étant sur le sol américain, vous avez un effet direct sur le taux d'emploi. C'est pas comme dans certaines industries, on pourrait dire par exemple les panneaux solaires étant en majorité fabriqués en Chine maintenant, il y a très très peu de concurrence internationale par rapport à la Chine, un tout petit peu en Allemagne, encore un peu aux États-Unis, mais c'est quasi fini. Bah si si l'État donne des subsides pour mettre des panneaux solaires sur votre toit, en fait vous subsidiez l'industrie chinoise. Si vous achetez des avions aux États-Unis, vous donnez directement de l'emploi aux travailleurs américains. Et ça se retrouve sous forme de les salaires sont versés, ça finance la sécurité sociale. Oui, il y a un peu de sécurité sociale aux États-Unis. En tout cas, les gens peuvent consommer, etc., etc. Donc c'est très très important ce chiffre de travailleurs de 150 000 dans tout Boeing, mais dont 90%, 137 000 sont basés aux États-Unis. Alors le constructeur aéronautique Boeing était très très optimiste avant les crashs, puisqu'il disait que il va y avoir une hausse des dépenses militaires à travers le monde en raison d'une recrudescence des tensions géopolitiques, donc ils s'en réjouissent. L'industrie de défense profite actuellement d'un contexte favorable, a souligné son PDG qui est Dennis Muilenburg. Et le budget de la défense reste soutenu aux États-Unis, tandis qu'on observe un renforcement à l'international. Il ne peut donc que se réjouir, je le disais, 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est ce que fait Boeing en année en militaire. Puis en civil, il fait 80 milliards, ce qui fait un chiffre d'affaires à peu près de 100 milliards. C'était en 2016, on peut dire qu'en 2018, c'est plus ou moins la même chose. En 2019, ça va être un petit peu plus critique. Alors les problèmes, j'ai dit qu'il y a eu deux crashs du fameux Boeing 737, qui est un vieil avion, il a 50 ans cet avion, et il a été, on a eu quatre nouveaux modèles, dont le dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a 4500 Boeing 737 qui sont en commande et qui doivent être fabriqués, livrés, et là c'est à l'arrêt. Donc ça génère un coût, pour l'instant les pertes sont évaluées à 8 milliards. C'est absolument énorme, c'est quasi du jamais vu, ça peut mener à la faillite. Alors il faut savoir que ces deux crashs sont dus à une mauvaise conception du système global de l'avion, parce que c'était un avion qui préexistait, ça faisait 50 ans, et on a rajouté deux gros réacteurs dessus, deux plus gros réacteurs, ce qui fait que l'avion penche un petit peu vers l'avant, et donc on s'est dit c'est pas grave, on va mettre un système informatique qui va corriger ça. Et le système informatique n'a pas du tout fonctionné, il y a eu deux crashs. Et c'est l'histoire que je racontais avec le gars qui est entré, le passager qui était en fait un pilote d'une autre compagnie, il est entré dans la cabine pour aider le pilote et le copilote, il a dit débranchez le système informatique là, ou électronique, débranchez-le, je pense que c'est ça le problème, ils ont débranché. Et en fait, c'est mettre ce système informatique, c'était pour corriger les défauts posés par la conception, la rénovation de l'avion, et c'est ça qui a conduit à la mort ou au crash des deux avions. Alors, faut savoir qu'il y a un autre Boeing, qui est le 777, qui lui est encore plus moderne et qui est en retard de conception, qui s'oppose à Airbus. Donc, Boeing va se faire voler son marché, puisque en fait, ils ont dû déplacer des ingénieurs de la conception de nouveaux avions, ils ont dû la déplacer à la conception de l'avion rénové, donc le Boeing 737. Donc, il doit être livré à 4500 exemplaires. C'est pas en une fois, évidemment, hein, ça s'étale sur 10-15 ans, hein, bien sûr, c'est pas 4600 d'un coup, hein. Voilà, en sachant que le coût d'achat, normalement, à la pièce, c'est à peu près 100 millions de dollars, hein, quand même. Bon, évidemment, si vous en achetez 200, vous avez un petit rabais, mais vous imaginez 100 millions de dollars fois 4000. Ouais, je renonce à calculer, en fait. C'est des centaines de milliards, mais étalés sur 10-15 ans. Alors en plus, Boeing a de nouveau un autre problème, après ce problème de crash d'avion, après le problème de la conception qui est retardée, c'est que les contractants du Pentagone, donc j'ai dit que Boeing est un gros fournisseur de matériel militaire, c'est que le numéro 1 du matériel le numéro 1 d'approvisionnement du matériel militaire, c'est United Technologies, qui vient de fusionner avec grosso modo, non j'ai dit une connerie, pardon, le numéro 1 c'est pas eux, c'est le numéro 3, United Technologies, Boeing étant le numéro 2, qui a fusionné avec le numéro 10-12. Et en fait, United Technologies et l'autre entreprise sont en train de passer devant Boeing. Donc Boeing est en train de perdre sa place au niveau militaire et de perdre sa place au niveau civil face à Airbus. Et enfin, au niveau militaire, il y a beaucoup d'informations, effectivement, mais c'est des choses, si vous intéressez à Boeing, vous tapez Boeing, c'est des choses, je tape dans la boîte qu'on peut pas citer, donc Google, on s'en fout, il y a Q1 aussi. Tapez oui, Q1, voilà, c'est bien, Q1, moteur de recherche Q1, c'est français, et ça ne retient pas vos recherches. Ben vous tapez Boeing, actualité, et vous voyez que c'est problème sur problème en fait. Déficit de 8 milliards, l'avion qui s'est crashé, les conceptions de nouveaux avions, ça ne va pas, ils doivent déplacer des ingénieurs, il y a la fusion de ses concurrents qui vont le dépasser dans le domaine militaire, et en plus, au niveau de l'appareil militaire qu'ils devaient fournir au Pentagone, ils se retrouvent en fait en retard de livraison, et ils sont en train de se faire, comme on dit, tailler des croupières par le concurrent au niveau militaire qui est Lockheed Martin et Airbus qui ont conclu un accord pour concurrencer Boeing sur le terrain de la fourniture d'appareils militaires. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans par rapport à la désindustrialisation ? On pourrait dire qu'effectivement, c'est parce que les fonds d'investissement font partie... Mais il y a eu toujours des fonds d'investissement. Il y a toujours eu des gens qui investissaient dans des entreprises et qui essayaient de les couler et qui étaient vraiment des rapaces, des requins, etc. Mais ça a toujours été le cas. Et oui, les pays des jeunes entreprises sont des salopards, etc. Mais ça a toujours été le cas. Pourquoi ici, ça s'écroulerait ? Les raisons personnelles, on va dire interpersonnelles, ou plutôt même, il y en a qui vont dire de système, de ouais, le capitalisme est rapace. Oui, mais il a toujours été. Et pourtant, Boeing a cru tout le long de ces années et il n'a pas augmenté, je veux dire, que sur sa rapacité, il est aussi augmenté parce qu'il a été capable de mettre en place des systèmes de production performants jusqu'à maintenant. Et alors, une objection, ou plutôt deux observations qui ont été faites par un auteur qui a souvent été cité ici, qui s'appelle Emmanuel Todd, qui est un historien français, certains disent sociologue, philosophe, enfin pas philosophe, non. Lui-même se dit qu'il est également boucher et charcutier. C'est un historien, donc Emmanuel Todd, qui est maintenant à la retraite. Et j'ai retenu deux extraits télé, je me suis rappelé de deux extraits télé, un en 2005 et l'autre en 2010. Et en 2005, il disait que faut savoir qu'aux États-Unis, pour rentrer à l'Uni, vous devez, on va dire, remplir, enfin, vous n'êtes pas obligé, mais tout le monde le fait, parce que les universités se basent dessus. Vous remplissez un questionnaire qui s'appelle le SAT, S-A-T, qui est un examen de Reasoning Test, donc qui vous permet de mesurer votre compréhension à la langue anglaise, en fait. Et en fait, par ça, On permet de voir si vous avez le niveau pour entrer à l'université ou pas. Les universités se basent beaucoup là-dessus pour évaluer que vous êtes bon. On le voit dans certains films. Hein. Dans certains films, on voit les élèves qui ont des capacités, ils passent le SAT et puis on découvre que vous êtes coté de 400 à 1600 points, enfin peu importe. Et on voit qu'apporter un certain nombre de points, bah là, vous êtes intéressant et que les universités sont peut-être enclines à vous engager, à vous offrir une bourse. Alors, ce que dit Todd en 2005 sur ce test, le SAT, le SAT, test d'évaluation des écoliers, des lycéens, deux écoliers, oui, pour entrer à l'UNIF, il dit qu'il y a plus de gens à l'université qu'il y a de gens capables de faire l'université d'après les résultats de ce test. Et il y a un problème. Donc ça veut dire qu'il y en a plus qui sont à l'UNIF et qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'il devrait y avoir, en fait, d'après le test. Donc il dit le système, c'est pas qu'il est corrompu, il est pas corrompu, il est vicié. C'est pas corrompu, c'est pas de sous table. En fait, le système est tel que, il faut savoir que le financement des universités est privé, complètement privatisé, qui se fait, et les universités se font dans leur financement par deux choses, par le versement du Minerval, qui peut aller jusqu'à 50, 60 000 dollars l'année, et par les fondations, c'est-à-dire, en fait, les fondations, c'est quoi? C'est les versements des anciens élèves, des anciens étudiants, qui ont réussi et qui vous versent de l'argent, quand ils sont dans le système professionnel, quand ils travaillent, etc., et qu'ils arrivent parfois au niveau. Mais donc, dans ce système-là, quand vous avez quelqu'un qui arrive à l'UNIF, faut pas qu'il rate, en fait. Parce que déjà, il va passer 4, 5, 6 années chez vous, donc il va verser quelque chose chaque année, et en plus, s'il a une bonne place après, il va vous verser du pognon. C'est là que le système commence à être vicié. Et puis, il y a aussi une deuxième observation qui est faite par Todd en 2010. Il a un débat universitaire sur son livre qui s'appelle Après l'Empire, qui part du déclin de l'Empire américain, du déclin des États-Unis, qui est un livre écrit en 2002. Et là-dessus, il constate qu'Airbus va dépasser Boeing. Que Airbus, en fait, ou plutôt que Boeing, a de plus en plus de retard. Il part déjà d'un avion qui s'appelle le Dreamliner, un avion de Boeing qui s'appelle le Dreamliner, qui est le Boeing 787. Donc, j'ai cité le 737, j'ai cité le 770, 737, c'est le vieux qui s'est crashé, le 777, c'est le nouveau, enfin, c'est le futur. Et le 787, c'est en fait un avion qui a été fait en même temps que l'Airbus A380 et qui était vraiment technologiquement plutôt avancé, même si on se rend compte que les avancées étaient faites par les sous-traitants italiens et japonais, mais c'est encore une autre histoire. Et en fait, Todd dit en 2010, mais en fait, Airbus est en train de dépasser Boeing. Voilà, alors si on sait, suivant ça, que Boeing a plein de problèmes de conception, si on voit que le système universitaire semble vicié, si on sait que dès 2010, et même Todd l'observe bien avant, en 2002, donc il y a quasi 20 ans, qu'Airbus est en train technologiquement de dépasser Boeing, et si on voit que l'aéronautique, c'est le state of the art of technology, et encore plus dans l'aérospatiale, l'aéronautique militaire, etc., mais peu importe, en fait, les problèmes de Boeing... C'est mon hypothèse, et je pense que Todd va un peu étaler un petit peu là-dessus, mais je suis pas Todd. En fait, c'est que les problèmes de Boeing sont révélateurs de la déliquescence générale du système d'enseignement américain. Parce que pour construire un avion, il faut pas deux, trois bons ingénieurs. Vous devez avoir deux, trois génies comme ingénieurs. On va dire, vous devez avoir deux, trois ingénieurs civils, une centaine d'ingénieurs industriels, et après, vous devez avoir 10 000 bons ouvriers. Et ça, est-ce qu'un système d'enseignement dans sa globalité aux États-Unis semble ne plus pouvoir le fournir? Parce que Boeing n'est pas la seule grosse entreprise qui a ces problèmes-là. Alors peut-être qu'il y a suffisamment de personnel. Mais le problème, c'est que c'est la finance qui engage ces gens. C'est Facebook, Google, qui ont besoin de cerveaux d'ingénieurs qui engagent ces gens. Ça, c'est une autre question. Je pense qu'il y a des réponses qui peuvent être trouvées là-dedans. Mais j'ai pas une émission de 3 heures non plus. Il faut savoir aussi que Boeing est un état dans l'état. Hein. Faut savoir que donc c'est un acteur mondial qui a une seule concurrence, c'est Airbus. Donc elle a une concurrence au niveau des avions civils, elle a une concurrence internationale vis-à-vis d'Airbus. Et ce qui s'est passé, c'est que la concurrence a fait prendre des risques à Boeing dans le cadre de cette concurrence face à Airbus. Donc on est allé trop vite en ignorant les mises en guerre qui ont été faites en interne. Il y a des informations qui sont en train de sortir, des ingénieurs, des ouvriers qui ont dit non, ça va pas aller, ce système est pas bon, on a rajouté des réacteurs, ils sont trop lourds, le système informatique et électronique de correction est pas bon. Il lui fallut refaire, en fait, un appareil complet, le 737, plutôt que de modifier un vieil appareil, qui était incapable, en fait, d'accueillir une modification majeure. Mais sauf que Boeing était peut-être plus capable de le faire, parce que justement, il est plus capable d'aller voir et d'aller trouver les gens compétents dans le système, par le système d'éducation, donc dans la population. Alors vous pouvez me dire, il peut aller les chercher à l'étranger. Oui, mais c'est très délicat de faire travailler des gens qui n'ont pas la nationalité américaine sur des produits qui sont très très protégés et qui parfois sont top secret, même dans le civil. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse concurrence internationale, et c'est un gros enjeu international, l'aéronautique civile, encore plus sur le militaire. Voilà. Et comme le disait le résumé un journaliste américain, Facebook, ça va pas remplacer Boeing, parce que Facebook, oui, ils apprennent à coder, ils codent, mais Facebook, ils fabriquent absolument rien du tout. Voilà, j'espère que je suis pas allé trop vite. Je vous ferai un résumé. Non, mais je déconne. Je sais que je pourrais le mettre sur la page de l'émission. Voilà. Alors, est-ce que Boeing, la déliquescence de Boeing n'est pas aussi la déliquescence du système de production, d'enseignement américain, et c'est ce qui nous guette aussi, puisque les Américains ont 20 ans d'avance sur nous. Peut-être que ça va arriver. Il faut savoir que l'entreprise leader de l'armement mondial, qui vient terminer le fameux F-35 pour ceux qui sont intéressés au dossier, c'est l'avion que les Américains essaient de vendre et qui a fait scandale en Belgique, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas moyen de résister à la machine américaine quand elle veut vendre son avion, qui est plus un avion, le F-35, un avion de l'OTAN qu'un avion des États-Unis. Voilà. Et il y a une concurrence en plus accrue d'autres pays, comme les Russes, sur des missiles anti-aériens qui sont en train de dépasser les Américains. Donc en fait, on voit que les Américains sont en train de se faire rattraper de partout, alors qu'ils avaient une grosse avance technologique sur le reste du monde. Ils sont en train de se faire rattraper par les Russes, par les Européens. Alors Airbus, c'est, on va dire, Allemagne et France, Espagne, Italie un petit peu. Et ils vont petit à petit se faire rattraper par la Chine. Ils sont incapables de maintenir l'écart technologique, l'avantage technologique qu'ils avaient. Voilà. Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? J'en sais rien. Ce que j'expose, c'est que voilà, il faudra pas s'étonner si effectivement, à un moment donné, beaucoup de Boeing seront cloués au sol, et qu'en fait, les compagnies aériennes, alors peut-être qu'on pourra dire tant mieux, c'est peut-être un jugement de valeur, ou c'est mieux pour l'environnement, tout ce qu'on peut dire, mais c'est que Boeing, en fait, va se retrouver complètement dépassé. C'est une entreprise qui est en train d'être complètement dépassée, avec des avions dont on découvre de plus en plus, même ces modèles qui ont marché, le Dreamliner, j'en parlais, le 787, ils sont en train de s'apercevoir qu'il y a de gros problèmes sur ces avions. Qui sont pas encore majeurs, il y a des problèmes qui ont conduit à des crashs, voilà. Et en fait, peut-être, je suis pas un oiseau de mauvais augure, mais peut-être que ça ne fait que, entre guillemets, que commencer. Et on peut se trouver avec des compagnies aériennes qui vont tomber en faillite, parce que du jour au lendemain, si vous êtes équipé qu'en Boeing, vous faire voir, vous pourrez plus les faire décoller. C'est pour ça qu'on a vu au fur et à mesure des années, pas que pour ça, mais que les compagnies aériennes s'équipaient de plus en plus avec un parc différent. Donc on achetait des Airbus et des Boeing, non pas pour parer au danger, mais pour parer, enfin, pas au danger, mais en tout cas aux défaillances éventuelles, aux modifications qu'il faudrait faire. Voilà. Et pour pas se mettre mal vis-à-vis de ces grosses compagnies, parce que quand vous achetez, vous êtes Ryanair, ou vous êtes Delta Airlines, ou vous êtes la Lufthansa, ou Air France, et j'en passe, et British Airways, Qantas et autres, Emirates, c'est clair que vous avez un gros pouvoir d'achat. Mais c'est clair aussi que vous avez que deux concurrents. Donc là, on pourrait parler au niveau économique de ce que c'est qu'un oligopole, etc. Mais est-ce que vous pouvez vous permettre d'acheter qu'un seul vendeur et ne pas satisfaire l'autre? Voilà, c'est plus des questions en fait au niveau économique que des questions au niveau politique, pardon, que des questions d'ordre économique.